Libre débat. Reportage plateau radio ou son glané sur les ondes des radios libres pour faire écho aux luttes en tout genre. Histoire, féminisme, frontières, autodéfense numérique, Marseille en lutte, archives LGBTQIA+. C'est tous les mercredis de 16h30 à 18h sur Radio Galère 88.4. Bonjour et bienvenue dans Libre Débat. Connaissez-vous Transit, cette merveilleuse librairie associative à côté de Réformée ? Depuis sa création en 2011, la librairie Transit accueille toutes celles et ceux qui souhaitent trouver un espace, des sources, des ressources nécessaires à la construction d'une pensée critique, nourrie de textes, de pensées, d'autrices venues des Suds. Et elle lutte ainsi contre l'appauvrissement de la pensée unique, uniforme et dominante. C'est une librairie militante qui s'oppose à la fascisation de la société française, européenne et mondiale en invitant des penseurs et des penseuses incarnant une autre idée de l'altérité. Et dans Libre Débat, désormais, vous aurez la chance, chaque premier mercredi du mois, d'écouter un auteur ou une autrice qui présente son livre à Transit, en direct, un peu comme si vous y étiez. Car Transit organise énormément de présentations de livres, et je vous invite vraiment d'y aller. Pour le mois d'octobre, il n'y a pas moins de 10 présentations qui sont prévues. Alors ça commence ce soir, mercredi 2 octobre à 19h, avec la présentation et la lecture de « Le jour agit » de Marie-Paul Linto. Demain, jeudi 9 octobre à 19h, ça sera la présentation du numéro 4 de la revue Tech « Au-delà de l'idéologie de la Silicon Valley » avec Lou Sellard et Félix Tréguet. Vendredi à 19h toujours, présentation de « Paroles pour une paix en terre de Palestine ». Ça sera avec Monique Serro-Chaibi, Marc Mercier et Janine Taisson. La semaine prochaine, jeudi 10 octobre à 19h, la présentation du livre « Ce sont d'autres gens » avec Jean-Christophe Godard. Vendredi 11 octobre à 19h, la présentation de « Gouverner sans contraindre » avec Soulef Ayad Bergouniou. Mercredi 16 octobre à 19h, la présentation de « De l'huile sur le feu, la France et la guerre contre le terrorisme en Afrique » en collaboration avec l'association Survie 13. Et ça sera Raphaël Grinvaux qui viendra présenter ce livre. Vendredi 18 octobre, présentation de Chroniques de Kanaky, Nouvelle-Calédonie. 13 mai, 10 juillet 2024 avec Alain Caston. Mardi 22 octobre à 19h, une présentation du livre L'histoire de l'UNEF, du renouveau à la réunification 1971-2001. Avec Frédéric Genevet et Guillaume Olbian. Samedi 26 octobre à 17h30, présentation du livre « Extrême droite, la résistible ascension » avec Stefano Palombarini. Et enfin, jeudi 31 octobre à 19h, présentation du livre « Le cordon » avec Nawel Ben Krayem. Voilà, 10 présentations passionnantes. Alors, ben, on se retrouvera, nous, dans Libre Débat, le 5 novembre, avec une de ces 10 présentations. Je ne sais pas encore laquelle. Alors, ce mois-ci, dans Libre Débat, je vous propose d'écouter Solène Brun, une sociologue, qui présente son livre « La domination blanche » qui a été écrit donc, avec Claire Cousquet. Et c'était le samedi 21 septembre à la librairie Transit. Je vous souhaite une bonne écoute.
Merci beaucoup. Bonjour à tous et toutes. Déjà, je suis hyper contente parce que c'est la première présentation du livre. Je suis très contente qu'elle ait lieu ici, qu'elle ait lieu à Marseille et dans cette très chouette librairie. Et donc, c'est un livre qu'on a coécrit donc avec une collègue et amie qui s'appelle Claire Cosquer. Ça fait des années qu'on travaille ensemble. On avait coécrit un livre qui avait plutôt vocation universitaire qui s'appelle Sociologie de la race il y a 2 ans, 3 ans. Et elle s'est spécialisée sur un peu l'étude des dominants, donc notamment des blancs, mais aussi des blancs riches. Donc elle travaille là-dessus. Ça faisait un petit moment qu'on se disait qu'on écrirait bien quelque chose ensemble à nouveau et d'écrire du coup sur les questions de blanchité. Et finalement, c'est Textuel en fait qui nous a contacté, qui nous a proposé. On aimerait bien publier un bouquin là-dessus. Est-ce que ça vous dit de le coécrire ? Et donc on a dit bah allez. C'est parti, on y va. Le but était de faire quelque chose de relativement grand public. On espère que c'est accessible à un public voilà, intéressé par les sciences sociales ou ce genre de débat, mais qu'on espère écrire de manière accessible. Et donc, du coup, ça devait être relativement court. Et s'ancrer, et peut-être c'est ce qui distingue ce livre de Sociologie de la race, c'est sûr, mais aussi de Derrière le mythe métis, c'est qu'il y a peut-être plus que sur les précédents, il y a un peu une dimension d'intervention dans le débat public, c'est-à-dire que peut-être que contrairement aux autres, on prend un peu plus position, et enfin, en tout cas, il y a peut-être plus une dimension d'essai dans le sens où on prend un peu plus position sur un certain nombre de sujets. Après, le but était toujours de le faire de manière informée, c'est-à-dire depuis notre position, qui est une position de sociologue, spécialiste toutes les deux des questions raciales. On travaille depuis des années, auxquelles on réfléchit depuis des années. Donc le but était aussi de fournir peut-être des clés, donc de nous appuyer évidemment sur tout ce qui a été fait avant nous, parce que, enfin voilà, évidemment, on n'invente rien dans ce livre. Voilà, on expose aussi des idées, on essaye de retracer des histoires, ce qu'on avait fait aussi dans Sociologie de la race. Je pense que ça, c'est aussi très important, étant donné que le champ de recherche sur ce sujet-là en France est quand même encore récent et que beaucoup de choses sont publiées en anglais. On trouve ça important de faire ce travail de passeuse d'idées, c'est-à-dire ne serait-ce que restituer aussi des pensées qui ne sont pas les nôtres, mais de raconter où est-ce qu'elles sont nées, pourquoi, de quelle manière. Pour aussi, à mon avis, et à notre avis, à toutes les deux, éviter ou lever un certain nombre de malentendus. Donc, je vais être un peu plus concrète dans un second temps. Mais donc, c'était ça aussi l'idée, c'est-à-dire de évidemment faire un peu l'état des lieux de ce qui a été produit et de proposer, nous, quelque chose à partir de ça, mais sans prétendre inventer quoi que ce soit. Et donc, le livre, on l'a organisé en 4 chapitres, pour aller vite. Le premier s'intitule « Qui sont les Blancs ?» et les Blanches, où le but, c'est de faire un retour historique sur la formation de ce groupe, j'en dirais 2 mots. Mais donc, le premier, c'est « Qui sont les Blanches ?» Le deuxième s'intitule « Une pensée de l'identité à une pensée du privilège ?» Le troisième s'appelle « Au-delà de l'identité ou du privilège, penser la domination ?» Et le quatrième s'appelle « Que font les Blancs et les Blanches ?» Et donc peut-être pour revenir dès le départ sur l'idée donc d'écrire sur la question de la blanchité, de la domination blanche, du privilège blanc. Je pense que c'était aussi l'idée de Textuel quand ils nous ont contactés, c'était de dire bon, on avance sur un certain nombre de sujets dans le débat public sur les questions de la manière dont on pense la race et dont on parle de l'antiracisme, mais qui reste un point qui continue à crisper particulièrement le débat public, le débat politique, c'est la question de nommer les blancs, de nommer la blanchité et de parler, que ce soit de privilège blanc, de domination blanche, et que ça reste quand même quelque chose qui crispe particulièrement. Qui fait particulièrement débat ou polémique, selon... Ouais. Et donc, de s'intéresser à cette question pour essayer, déjà de peut-être poser les termes du débat, essayer de comprendre de quoi il est question, mais essayer aussi, en tant que sociologue, d'essayer de comprendre pourquoi, précisément, ça fait tant débat ou ça crispe tellement. Et qu'en fait, la manière même dont la polémique s'organise dit finalement beaucoup de choses de la position blanche et des résistances blanches à penser une position raciale dominante. Et donc, il y a un double intérêt, quoi. C'est évidemment d'intervenir dans le débat public, d'essayer de proposer une grille de lecture, des clarifications, mais aussi d'utiliser le débat public lui-même comme une indication de ce qui se passe, c'est-à-dire comme un symptôme de ce qui est précisément en jeu, c'est-à-dire la domination et de pourquoi elle refuse de se penser. Et donc, on part un peu des grandes questions qui se sont posées récemment, et de repartir aussi un peu des oppositions qui sont fréquemment faites aux personnes qui parlent de blanc et de blanche. J'ai récemment vu que Rokhaya Diallo, par exemple, sur ses réseaux sociaux, avait posté une vidéo d'elle récemment sur un plateau télé où, en plus, elle parle pas tellement des blancs et des blanches, elle parle des personnes non blanches. Je sais plus pourquoi, mais elle dit oui, donc les personnes non blanches. Et là, en fait, elle est entourée de personnes blanches sur le plateau, en l'occurrence, et les gens, en fait, commencent à péter un câble. Vraiment parce qu'elle a nommé blanc, en parlant des non-blancs, mais elle a nommé blanc, et puis alors tout de suite, du coup, les gens s'énervent, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Mais c'est qui les blancs? Nanana, oui, mais moi, voilà. Donc, vraisemblablement, c'est vraiment pas réglé, cette question. Avec, du coup, voilà, souvent, bah alors. Qui sont les blancs, puisque apparemment, du coup, rapidement, c'est une question. Mais alors, moi, je suis pas blanc. Alors, qu'est-ce que vous appelez les blancs, etc. Donc, on y répond. Mais enfin, pas tous les blancs sont racistes, qui est un peu la question par laquelle on ouvre le livre, parce que c'était une question qui, en fait, avait été posée à Raoul Peck, qui est ce réalisateur haïtien qui était sur le plateau de Mediapart quand il présentait cet excellent documentaire qui s'appelle Exterminer toutes les brutes. Et qui, en fait, est une histoire de la domination blanche. Voilà. Et donc, il est sur le plateau de Mediapart, et donc, c'est une des questions qu'on lui pose. Et lui, en gros, et c'est ce qu'on raconte, il dit, mais non, tous les blancs sont pas racistes, en tout cas, ils le sont pas intentionnellement. Et alors? Il dit, ça n'empêche que, en gros, il dit, toutes choses égales par ailleurs, les personnes blanches sont mieux traitées que les personnes qui sont pas désignées comme blanches. Et donc, tout le problème est de comprendre pourquoi, et donc, de partir de là. Donc, nous, on prend un peu ça au mot et on dit, bah, du coup, en effet, pourquoi il y a tant de levées de boucliers au fait de nommer les blancs? On revient sur la polémique sur le privilège blanc qui a été particulièrement forte en 2020 en France. Je sais pas si vous vous rappelez, donc c'était au moment des manifestations Black Lives Matter aux États-Unis et en France. En fait, c'était le moment de la mort de George Floyd et un peu un regain du mouvement autour de la mort d'Adama Traoré. Il y avait une grosse manif en juin 2020 et Virginie Despentes avait écrit une lettre ouverte qu'elle avait fait lire, je sais plus, sur France Inter. Le titre de la lettre, ça devait être à mes amis blancs qui voient pas le problème. Et où, en fait, en vrai, elle écrivait une lettre sur. Elle écrivait un peu la liste des privilèges blancs en parlant d'elle, en disant voilà, donc moi, quand je sors dans la rue, c'est ma carte bleue que j'ai oubliée en haut, pas ma carte d'identité, c'est à ça que je pense. Moi, en gros, elle dit si en vrai, un policier me tuait en m'étouffant, en s'asseyant sur ma cage thoracique, ça ferait évidemment un problème national, etc. Enfin bon, elle énumère assez simplement la liste un peu des privilèges qu'elle tire de sa position sociale. Et en fait, ça avait donné lieu à vraiment un moment médiatique, ouais, de furie médiatique. On a regardé le nombre d'articles qui parlent de privilèges blancs, c'est-à-dire qu'en gros, vous n'en avez à peu près aucun avant 2020. 2020, 2021, vous en avez, mais des centaines en fait, dont plus de la moitié, et ça c'était intéressant de regarder dans les archives de presse, et donc on a regardé en regardant par médias, plus de la moitié était en fait publiée par Le Figaro et Valeurs Actuelles seulement. Donc c'était évidemment pas l'occasion d'un débat un peu intéressant et apaisé, c'était l'occasion d'une espèce de déferlement de « mais comment ça? Nanana ». On a eu Jean-Michel Blanquer aussi, c'était au moment de l'organisation d'un stage antiraciste, organisé par le syndicat Sud Éducation 93. Il y avait eu une polémique sur le fait qu'il parlait de racisme d'État, mais il parlait aussi de blanchité. Et donc, Jean-Michel Blanquer avait dit que c'était voilà, des termes racistes, et que c'était extrêmement grave. Ce qui est assez inédit, en réalité, pour des concepts de sciences sociales, qui soient si virulemment attaqués, y compris par le pouvoir politique, de manière voilà, très directe, alors qu'on parle, en réalité, là. Voilà, de concepts qui sont utilisés par des chercheurs et des chercheuses en sciences sociales, qui sont évidemment réappropriés ensuite par tout un tas de personnes, et notamment des militants, mais qui sont en fait des termes qui viennent des sciences sociales et qui, du coup, là, étaient disqualifiés de manière sans appel par le pouvoir politique. Donc on revient un peu sur l'ensemble de ces polémiques et sur ce qu'elles nous disent de la France et du déni particulier qu'il y a en France à penser la position blanche, mais aussi au-delà même du cadre du contexte français, qu'est-ce que ça dit de cette position sociale-là, qu'est-ce que ça dit aussi de la manière dont les débats sont posés. Parce qu'en fait, une des protagonistes de la grande polémique qui a eu lieu autour du privilège blanc en 2020, c'était Corinne Narasiguin, qui était à ce moment-là la secrétaire générale du Parti socialiste. Et où, du coup, c'était aussi un débat qui, en fait, après, on s'en aperçoit là, et puis on s'en aperçoit encore récemment, mais qui, en fait, clive de manière très, très forte la gauche, et donc le camp progressiste, évidemment sur les orientations antiracistes qui vont avec, mais qui, du coup, était un débat qui, bien sûr, alors crispait beaucoup la droite et l'extrême droite avec Le Figaro et Valeurs Actuelles, mais qui aussi se déroulait, en fait, si on regarde voilà, des débats dans les pages de l'UMA, où vraiment c'était, enfin voilà, avec des gens qui contestent très fortement et très virulemment l'idée qu'il pourrait y avoir un privilège blanc. Jean-Luc Mélenchon à l'époque avait dit les gens qui parlent de privilège blanc n'ont jamais vu un blanc pauvre. Et avait en fait balayé le truc comme ça à ce moment-là. Et voilà, donc ça animait aussi la gauche. Et donc on pense que ça dit aussi des choses intéressantes de ça et de ce qui s'y joue. Oui, peut-être un élément là-dessus que je trouve intéressant et qu'on redit dans l'introduction, c'est que c'est d'autant plus étonnant que ça crispe à ce point, notamment dans les rangs de la gauche et qu'il y ait toute une partie de la gauche qui soit très hostile, non seulement à penser les questions raciales, mais peut-être encore plus spécifiquement à penser la question blanche, que disons, les premiers auteurs blancs, enfin les premiers chercheurs blancs qui se saisissent de cette question de la blanchité, de la position des blancs, etc., aux États-Unis. Donc je dis blancs parce qu'avant eux, il y avait évidemment des auteurs et autrices noires qui pensent la condition blanche bien avant, mais disons que dans les années 80 et 90 se développe un courant, notamment chez les historiens, de penseurs et penseuses de la blanchité, et en fait ce sont des chercheurs qui appartiennent de manière très explicite au courant marxiste et qui pensent la question blanche depuis une position marxiste. En tout cas, la manière dont ça se diffuse, y compris aux États-Unis, dans le milieu universitaire, n'est pas du tout en contradiction avec des positions marxistes. Parfois, on voudrait faire croire, à mon avis, en France, quand on voit le type d'opposition, sur une idée que, du coup, il y aurait d'un côté peut-être une vieille gauche marxiste et de l'autre, je ne sais pas, des courants de gauche, je ne sais pas, pénétrés par le postmodernisme, qui, eux, sont ouverts à penser la race, alors même qu'en réalité, dans les années 80-90, c'est vraiment des auteurs, pour le coup, très classiques marxistes qui se posent cette question-là de la blanchité. Donc, je trouve ça aussi intéressant, quand on fait ces histoires-là, de rappeler, en fait, d'où viennent ces pensées-là, d'où viennent les modes de pensée critique, quels sont les types de questionnements. Et donc là, en l'occurrence, un des types de questionnements qui anime ces auteurs marxistes-là, c'est d'essayer de comprendre pourquoi, aux États-Unis, alors même que pendant la période de l'esclavage, il y avait aussi des blancs très pauvres et très exploités par, en gros, la classe bourgeoise aux États-Unis. Comment se fait-il que dans ce pays, il n'y ait pas eu de véritable alliance de ces blancs pauvres avec les noirs? Pourquoi, en gros, il n'y a pas eu d'alliance de ces blancs-là avec les noirs pour, en gros, renverser le pouvoir bourgeois blanc? Qu'est-ce qui s'est passé pour que, en fait, il n'y ait pas d'alliance de classe contre, en fait, la bourgeoisie? Ce qui est quand même une question très intéressante. Et leur réponse, en gros, en résumé, mais c'est de dire, la blanchité, en fait. Et ça, je trouve que c'est un truc assez bien traduit dans ce que raconte Félicien Faury sur l'électorat du RN. En gros, les auteurs états-uniens, ils reprennent ce truc de Du Bois qui disait il y a un salaire psychologique de la blanchité, c'est-à-dire même si on n'en retire pas nécessairement à titre individuel énormément de gains matériels, ou en tout cas, enfin honnêtement, ils sont très pauvres, et enfin là je parle des états-uniens, pas des électeurs RN, mais des états-uniens qui à ce moment-là, enfin certains, voilà, sont vraiment en situation de très grande précarité, et pourtant apparemment se disent pas que c'est le moment de faire une alliance. Ben, en gros, tout ce courant-là explique qu'il y a, en gros, cette chose qui n'est pas forcément quantifiable, disons, en termes économiques, mais qui s'appelle, en fait, la blanchité et le statut blanc, qui donne un espèce de supplément de dignité, en tout cas, c'est comme ça qu'eux se le disent, à ces blancs qui se disent « Ok, je suis vraiment très, très bas, mais je reste toujours plus haut que les esclaves ». Et ça me donne un sentiment de moi-même qui vraiment me suffit, et en tout cas surtout que je veux à tout prix préserver. Et que si jamais j'en venais à être mis à égalité avec ceux qui sont encore plus bas que moi, c'est-à-dire les noirs esclaves, alors là vraiment j'aurais tout perdu. D'où la très forte énergie qui est mise à justement ne surtout pas s'allier avec les noirs et à surtout réaffirmer sa position de domination, alors même que vraiment à ce moment-là il domine pas grand-chose. mais il domine racialement en réalité, et ça dit quelque chose et ça veut dire quelque chose de très fort pour eux. Pourquoi je fais le lien avec ce que raconte Félicien Faury dans son livre, c'est parce qu'il y a un peu de ça aussi dans l'électorat RN. Alors à ceci près que l'électorat RN, c'est pas tellement les plus pauvres des pauvres que ceux qui en fait ont pas trop à se plaindre, mais par contre sont très angoissés par l'idée du déclassement, ou en tout cas ont très très peur du déclassement, et que ce qui leur permet par contre de tenir et qui leur donne une raison en fait aussi de supporter leur position, c'est de se dire que au moins ils sont mieux que les immigrés, les musulmans d'à côté, etc. Et que ça, je pense que tant qu'on ne comprend pas que, en fait, ça crée un intérêt spécifique à une partie des Blancs de ne surtout pas s'allier avec ceux, du coup, qu'ils perçoivent comme non-Blancs, je pense qu'on manque aussi, du coup, des explications à pourquoi on manque des formes d'unité stratégique des classes ouvrières, des classes populaires, voilà. Et donc, je trouve ça intéressant de voir comment ça a encore des échos aujourd'hui. Pour peut-être le dire simplement, nous, ce qu'on dit dans ce livre, la première chose qu'on dit, c'est en réalité, penser la blanchité, c'est absolument nécessaire et c'est absolument indissociable de penser le racisme. C'est impossible de parler de racisme de manière conséquente, disons, sans parler de blanchité, sans parler des Blancs ou sans parler de groupes racialement dominants. Et en cela, c'est un peu ce qu'on répond au débat sur le privilège blanc. On dit, mais en réalité, penser qu'il pourrait y avoir une domination et des discriminations sans position privilégiée, ça n'a absolument aucun sens, au sens strictement arithmétique. C'est pas seulement un jeu à somme nulle, mais en partie, ça l'est. C'est-à-dire, en partie, ça peut être réglé arithmétiquement. Uniquement, 3 ou 5 ou 10 députés non-blancs, ça veut dire que tout le reste sont des députés blancs. Si on veut être dans une situation de plus grande égalité, ça veut dire qu'il y aura moins de députés blancs. C'est tout, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de moment où on pourrait arriver à une situation d'égalité sans enlever quelque chose aux dominants. Ça, pourquoi c'est important ? Parce que il y a un côté un peu dangereux à faire croire aux gens que ça ne serait pas le cas. C'est-à-dire à faire croire aux gens que, mais en fait, on a tous intérêt de manière égale à l'égalité. Ça n'est pas vrai. Je veux dire, et d'ailleurs, ça explique en grande partie les raisons pour lesquelles l'égalité n'est pas là. Enfin, si tout le monde y avait intérêt, probablement qu'on aurait trouvé des moyens de l'avoir. Donc, il y a des gens qui n'y ont objectivement pas intérêt. C'est-à-dire, parfois, on peut aller contre ses intérêts. C'est pas du tout impossible. Mais par contre, il faut reconnaître que s'il y a des gens qui sont désavantagés par une situation, ça veut dire que d'autres sont avantagés par cette même situation. Et c'est ça qu'il faut aussi comprendre. Et c'est ça qui fait de la race, du racisme, un rapport de domination. C'est que, fatalement, s'il y a des dominés, il y a des dominants. Et donc, c'est ça qu'il faut ouvrir comme discussion, qui est évidemment très désagréable, parce que tout à coup, surtout dans un pays comme la France, on n'aime pas parler de race, on n'aime pas que cette question soit posée aussi explicitement. C'est aussi que les dominants, de toute façon, quels qu'ils soient, n'aiment pas trop être nommés. Et ça vaut à peu près pour n'importe quel rapport de domination. C'est très vrai pour le genre. En fait, des présentations, je ne sais pas si ça arrive toujours, mais présentation féministe, il y a toujours des hommes qui disent, mais quand même, ces étiquettes, finalement, est-ce qu'on n'est pas tous humains ? Enfin, je veux dire, voilà, donc cette résistance à se nommer, à se penser, parce que c'est toujours les autres qui sont particularisés, c'est toujours les autres qui, justement, sont eux non-blancs, et puis c'est confortable d'exister dans cette illusion que notre position serait la position de neutralité. Donc on part de là, on dit, mais en fait, penser la blanchité, ça apparaît le geste à peu près évident pour penser la question du racisme. Et c'est là que ça nous amène à ces différents chapitres. Donc, évidemment, on commence par le commencement, c'est-à-dire comment ceux qui se désignent aujourd'hui comme blancs, comment des gens qui n'avaient pas toujours été un groupe blanc sont venus à utiliser ce mot pour se qualifier eux-mêmes, pour se penser eux-mêmes, pour penser d'autres blancs, et qui ils sont, en fait, et d'essayer de faire cette histoire qui, du coup, est, sans très grande surprise, une histoire très européenne qui s'exporte ensuite aux États-Unis, mais donc la matrice de la blanchité se trouve dans l'Europe occidentale. Elle s'exporte aussi ensuite de manière très visible et très forte aux États-Unis, qui devient un peu la nation de la création de la blanchité, quoi, qui se fonde sur le génocide des Premières Nations et la mise en esclavage de populations noires, et donc sur l'affirmation d'une identité blanche. Donc on parle quand même assez longuement de ça, et on esquisse, on pourra y revenir, mais on esquisse dedans l'idée que peut-être une manière un peu intéressante de penser aussi cette position blanche, cette question de qui sont les Blancs et qui sont les Blancs aujourd'hui, ce serait de faire un peu comme ce que une autrice a fait pour le genre qui s'appelle Rewyn Connell et qui dit peut-être qu'il serait possible de penser des masculinités hégémoniques et des masculinités subalternes, c'est-à-dire que tous les hommes ne sont pas, à la même distance, si on pense, je sais pas, un noyau de la domination, tous les hommes se situent pas à la même distance de ce noyau. Il y a des hommes qui sont moins dominants que d'autres ou plus dominants que d'autres, et donc il y aurait des formes de masculinité subalterne qui restent des masculinités, mais qui sont peut-être moins proches du cœur du pouvoir, pour l'imager comme ça. Et du coup, nous, on dit peut-être que ce serait intéressant de reprendre ça pour penser la blanchité aussi. Peut-être qu'il y a en fait des formes de blanchité très hégémoniques et des formes de blanchité qui seraient plus subalternes, un peu plus à la marge, un peu moins justement au cœur et au centre de ce qui domine. On pourra en discuter si vous voulez. Et donc ensuite, on aborde cette question, on dit mais en réalité, pour penser les choses en termes de rapport social, il faut quand même s'éloigner de cette question de l'identité, qui n'est pas si intéressante que ça, il nous semble. Pour parler, du coup, on passe en termes de privilèges. Et donc là, on revient sur la polémique du privilège blanc, on explique, voilà. Par exemple, dire qu'il n'y aurait pas de privilège blanc en France, ce serait à peu près rigoureusement l'équivalent de dire qu'il n'y a pas de racisme en France. Mais ensuite, on dit aussi que pour nous, le concept de privilège a aussi des limites. Nous, on l'utilise peu, Claire l'utilise peu dans ses travaux, parce que, en gros, c'est ce qu'on explique dans le livre, le problème de penser en termes de privilège, c'est qu'un privilège, vraiment, ça se détient, donc c'est vraiment comme un bien ou une ressource que vous détenez, c'est très quantifiable. Mais donc c'est aussi assez statique et ça s'intéresse plus à ce que les gens détiennent plutôt que à ce qu'ils font et comment ils le font, et du coup de manière un peu plus dynamique, si je puis dire, comment au quotidien la domination et le processus de domination se reproduit, qui est peut-être pas juste une question de comment individuellement combien je détiendrai de privilèges, mais plutôt quelle position j'occupe dans des rapports de domination, quelles sont les pratiques que je mets, en œuvre au quotidien, qui font que, en fait, parce que je fais, ça reproduit la domination. Et donc, c'est ça qui nous amène au troisième chapitre, où on dit, finalement, le concept de privilège blanc a plein de vertus qu'on reconnaît tout à fait, mais peut-être qu'on pourrait, plutôt penser en termes de domination. Ce qui permet aussi de penser en termes... à notre avis, peut-être un peu moins individuel, un peu moins, du coup, un espèce de compte individuel de qui individuellement détient combien, mais aussi en termes donc davantage de groupe, du groupe social blanc, et aussi de socialisation, c'est-à-dire de la manière dont, en fait, être blanc et dans cette société, c'est aussi être élevé comme une personne blanche et donc, en fait, intérioriser tout un tas de choses, de manières d'être, de manières de se comporter, de manières de penser au quotidien, qui en fait reproduisent, y compris malgré les gens, la domination blanche. Un peu sur le modèle de, pour reprendre l'analogie avec le genre, de la manière dont les hommes sont socialisés à être des hommes et à qui on inculque souvent sur un mode très non conscient, enfin sur un mode de l'intériorisation pas forcément explicite, une manière d'être au monde en fait. Une manière de se comporter, une manière de se tenir, une manière de prendre de l'espace, une manière de nanana, sans forcément que ce soit conscient pour personne, mais que du coup de reprendre ce truc de socialisation et de dire mais en fait il y a une socialisation blanche, il y a des modes d'être blanc qui participent en fait à reproduire cette domination. Alors en partie ça recoupe les modes d'être masculins, en partie, mais pas uniquement. Mais c'est aussi une discussion qu'on pourra avoir là. On parle de blanchité, il est évident que, et je pense que ça se voit quand on lit le livre, mais que ni Claire ni moi ne pensons que la race est le rapport social premier ou essentiel. Enfin, en fait, on pense juste qu'il n'y en a pas et que et que celui-là, il est souvent très oublié en France, c'est pour ça qu'on s'intéresse à lui, mais que évidemment, et peut-être pour les formes de blanchité non hégémonique, c'est intéressant de penser à ça aussi d'un point de vue intersectionnel, enfin, de penser à comment aussi, ben, on n'est pas blanc de la même manière, qu'on soit un homme ou une femme, on n'est pas blanc de la même manière qu'on soit de classe supérieure, de classe populaire, c'est pas les mêmes formes de blanchité. Et évidemment, dire qu'il y a un privilège blanc ne veut pas dire que tous les blancs sont privilégiés. Et évidemment, enfin, le fait que certains postes de pouvoir soient largement inaccessibles aux personnes non blanches ne veut pas dire ni qu'il n'y a aucune personne non blanche en position de pouvoir, ni que c'est facile pour tous les blancs, bien au contraire. C'est de raisonner un peu en disant bah, toute chose égale par ailleurs. Si vous prenez deux individus à n'importe quel endroit de la société, le fait d'être blanc plutôt que d'être non blanc reste un facteur de facilitation. Mais par contre, ça ne veut pas du tout dire que la majorité des Blancs sont en situation de pouvoir dans la société. Enfin, je veux dire, vous pouvez occuper une position dominante dans un rapport social et dominer dans un autre rapport social. Pour le coup, les femmes blanches sont un très bon exemple. Évidemment qu'elles restent dominées du point de vue du rapport social de genre. Ça annule pas les effets, ça annule pas non plus la classe sociale. C'est juste que ça vient complexifier... que aussi, bah, voilà, ça crée des formes spécifiques d'être selon sa position raciale, disons. Donc ensuite, on passe pas mal de temps à expliquer pourquoi on trouve ça intéressant de penser en termes de domination. Encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on invente, hein, on reprend. J'ai vu qu'il y avait le contrat racial de Charles Mills dans la librairie, donc on passe pas mal de temps à dire pourquoi on emprunte des choses à Charles Mills. Lui, il fait tout un truc qu'on avait traduit avec Claire et que moi, je trouve personnellement très rigolo. Il a un article qui s'appelle « L'ignorance blanche ». On fait tout un truc sur... Je rigole parce que l'article est un peu drôle à lire, enfin, parce que du coup, souvent, il prend un peu le contre-pied des épistémologies du point de vue. Cette idée que du coup, ben, on perçoit mieux les choses au sujet d'un rapport de domination quand on est soi-même dominé, qui a beaucoup été développé notamment par les féministes noires et chicana, le fait de dire bah voilà, ça donne quand même un point de vue sur le monde et sur l'expérience elle-même qui est quand même très informée. Et donc lui, évidemment, il est d'accord avec ça, mais il prend l'inverse, il dit c'est pas juste ça, c'est aussi que en fait exister dans la domination, ça obscurcit le jugement, en fait ça empêche de voir une partie de la réalité telle qu'elle est et ça rend aveugle ou enfin à une partie du monde telle qu'il est, une partie des expériences sociales telles qu'elles existent vraiment, et aussi parce que le fait d'être dominant dans la société, ça invite pas, disons, à réfléchir particulièrement à certaines choses, puisque les choses sont ce qu'elles sont et qu'elles sont faites pour nous, on n'a pas besoin de se poser 36 000 questions. Et donc, du coup, eh ben, ça crée une forme d'ignorance spécifique, qu'il appelle l'ignorance blanche, et qui serait cette forme à la fois de méconnaissance ou de mécompréhension du monde, et donc il donne pas mal d'exemples. Après, il a une version... très peu essentialiste de voir les choses. Ce qu'il dit, il y a aussi des personnes non blanches qui peuvent rentrer dans cette forme d'ignorance blanche. Pour lui, enfin, peut-être c'est ça que j'aurais dû dire dès le début, mais il y a évidemment rien de naturel là-dedans, en fait. Il y a rien d'attaché essentiellement aux gens. C'est quelque chose qui résulte de positions sociales. Donc les positions sociales, par définition, elles, non seulement elles changent, elles sont arbitraires, etc. Et elles sont attachées à des individus, mais parce qu'ils sont là où ils sont et pas parce qu'ils sont nés d'une certaine manière, disons. Mais donc, du coup, on parle aussi de l'ignorance blanche, de cette idée que, bah, du coup, sur tout un tas de sujets, et notamment sur les sujets de race, vraiment, les personnes blanches ne sont pas les mieux placées pour, en fait, penser les choses. Et de l'expliquer socialement, du coup, d'expliquer pourquoi, en fait, c'est le cas et pourquoi, en fait, c'est le système raciste lui-même qui crée cette, disons, déficience pour les personnes blanches, puisque c'est comme ça que parle Charles Mills. Ce qui nous amène, du coup, à la très vaste question que je vais laisser pour la discussion de l'intentionnalité. Puisque nous, on dit, bah, c'est une socialisation, il y a surtout la dimension de sortir des débats infinis sur l'intentionnalité, qui sont non seulement d'un point de vue sociologique très peu intéressants, parce qu'en fait, c'est impossible à saisir une intention. Enfin, en tout cas, vous pouvez juste vous baser sur ce que les gens disent, et bon, ça vous mène pas très loin. Si vous qualifiez quelque chose de raciste, immédiatement, vous avez une levée de bouclier de l'ordre de l'intention, de dire « mais pas du tout ». Alors, soit je ne suis pas raciste, puisque ce serait quelque chose de, je sais pas, d'ontologique. Soit on l'est, soit on l'est pas, fondamentalement, au fond de nous, etc. Et donc, si on ne l'est pas, alors rien de ce qu'on fait ne peut être raciste. Et comme ça, ça règle le problème. Ou je n'ai pas l'intention de l'être, ce qui est un peu la même chose. Et donc de dire, mais peut-être que la question est surtout de savoir quel effet nos actions ont et qu'est-ce qu'on fait, et peut-être plutôt que de savoir qu'est-ce qu'on a au fond de nos cœurs. Parfois, on fait des choses sans apercevoir, on reproduit des choses, etc. Et puis, on parle aussi du coup de que faire. Qu'est-ce que les Blancs font et de un peu que faire, qui sont un peu les deux questions. Alors, on commence fort dans le que font les Blancs, puisqu'on commence par le récit des derniers attentats d'extrême droite qu'il y a eu un peu partout dans le monde, au nom en fait de la défense de la blanchité, pour rappeler quand même que font les Blancs, bah, ils terrorisent en réalité. Et là-dessus, on revient aussi sur la grosse responsabilité française, parce qu'en fait, dans à peu près tous les derniers attentats, qu'ils soient aux États-Unis, en Australie, en Europe, en Norvège, en Allemagne, etc., terroristes blancs qui tuent des gens au nom donc d'une idéologie, le font en reprenant l'idéologie du grand remplacement, qui a quand même été théorisée par Renaud Camus, qui est français. Voilà, de replacer aussi ces responsabilités-là et de s'interroger là-dessus. Et puis on passe aussi à la question des blancs antiracistes et du débat qu'il y a eu longtemps aux États-Unis et qui arrive aussi en France de est-ce que c'est possible de renoncer à son privilège blanc ? Est-ce que c'est possible de moins dominer ? Comment est-ce possible ? Qui est en fait une question qui met en tension fondamentalement la question des structures et des individus. C'est-à-dire, est-ce que c'est possible en fait de se défaire individuellement de quelque chose qui est bien plus large et qui est structurel ? Et donc, on revient un peu sur les termes de ce débat et voilà, un peu là où ça amène. Et évidemment, on ne donne aucune solution et aucun manuel là-dessus, mais on donne des pistes. Parfois, on dit peut-être qu'il faut respirer un coup. On conclut un peu sur, en tout cas, l'importance de penser les choses aussi en termes de blanchité et sur le point de vue du blanc pour inverser le problème du racisme. Cette question que Du Bois avait posée, cet auteur africain-américain qui disait qu'est-ce que ça fait d'être un problème, en parlant des Africains-Américains, et du coup de dire mais en fait le problème du racisme sont les blancs et les blanches, et donc d'inverser le sens du problème et donc de retourner en fait la question pour que les personnes non blanches soient déchargées de cette question du problème et qu'on la remette à sa juste place. Voilà. C'est une formule de Baldwin qu'on reprend. Il a tout un texte. Le texte en français, c'est « Sur le fait d'être blanc et d'autres mensonges ». Et dans tout le texte, il dit pas « les blancs », il dit « ceux qui pensent qu'ils sont blancs ». Pour bien rappeler à quel point c'est une création arbitraire. Enfin, en fait, ceux qui pensent qu'ils sont blancs aux États-Unis n'étaient pas blancs en fait avant d'arriver aux États-Unis. Ils étaient écossais, ils étaient anglais. Ils sont devenus blancs parce qu'ils ont décidé en fait d'être blancs ensemble, en génocidant les populations indiennes, en asservissant et en mettant en esclavage les Noirs, en violant les femmes noires, en empoisonnant les puits. Enfin, il a en fait cette longue liste de comment on devient blanc. En fait, si on est réfléchi, pour gagner en gros son ticket d'entrée dans la blanchité, ça se fait dans la violence. En fait, à chaque fois, et tous les exemples historiques qu'on a, c'est dans la violence, et notamment, c'est la violence vis-à-vis des Noirs. Qui sont en fait quand même quelque chose que je disais déjà dans derrière le mythe métis, mais dans l'architecture raciale telle qu'elle a été pensée et avec toutes les déclinaisons qu'il y a eu de hiérarchie, enfin de combien il y a de groupes, 5, 7, 56, nanana, de se rappeler qu'il y a un peu ces deux invariants qui sont que les blancs ont toujours été mis en haut de la hiérarchie et les noirs toujours tout en bas, et donc en gros l'antithèse de la position blanche c'est la position noire, et donc ceux de qui il faut toujours se distinguer sont les Noirs. Et ça, je pense que c'est important parce que ça dit aussi plein de choses sur la manière dont la race s'est organisée au niveau mondial, donc ça continue de fonctionner. C'est aussi ce que dit Raoul Peck dans ce documentaire, mais qui dit mais en fait, l'histoire du monde, c'est l'histoire de notamment de la domination européenne sur le monde. 5 pays dans le monde sur 192 qui ont échappé soit à la colonisation, soit à des formes de domination directe. Donc ça fait beaucoup dans le monde de domination européenne. C'est une histoire de violence, c'est une histoire de génocide, c'est une histoire d'extermination, c'est une histoire d'expropriation. La blanchité, c'est la violence. C'est la violence, et il le fait vraiment dans ce documentaire de manière, je trouve, vraiment magistrale. Enfin, c'est nauséeux, quoi, à voir, mais c'est vraiment toute l'histoire de à quel point la blanchité, c'est la destruction. De remettre ça aussi à cet endroit-là, quoi, de dire... C'est ça aussi l'histoire du monde. C'est sûr que nous, on est très, ethnocentrés dans ce sens. C'est que nous, ce qui nous intéresse, c'est un peu la matrice de ça. Et peut-être l'Europe et la France a tendance à un peu trop oublier à quel point elle a une place absolument centrale dans cette domination mondiale globale. Et que c'est une histoire aussi, voilà, très française, très européenne, cette histoire de domination. C'est pour ça aussi. Bah, en fait, je le dis parce que souvent, quand on travaille sur les questions raciales, ça arrive beaucoup. Des gens qui disent oui, ok, l'Europe, mais qu'en est-il du reste du monde? Et oui, vous dites que voilà, la race, la matrice raciale, c'est l'Europe, mais est-ce qu'il n'y a pas une pensée raciale dans d'autres pays du monde? Bon, moi, souvent, je réponds en deux parties qui, un, on a besoin de travaux sur, des modes de pensée raciale qui soient pas forcément, du coup, sur le mode européen, mais deux, quand même, de pas oublier que le mode de pensée européen s'est exporté absolument partout dans le monde, en fait. Enfin, et que c'est très compliqué quand même de penser des endroits du monde qui seraient absolument touchés d'aucune manière par la pensée européenne et par cette responsabilité européenne-là et par l'exportation des manières européennes de voir le monde. Européenne au sens de occidental, parce qu'en fait, l'Occident, c'est les Européens juste qui se sont installés ailleurs. Et c'est juste que je le dis parce que souvent, je trouve ça assez facile... depuis la France, de dire oui, mais quand même, peut-être qu'ailleurs, je sais pas trop quoi. Oui, bon, enfin, en vrai, voilà. C'était aussi une manière de dire ça. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde qui n'ont pas eu affaire à l'impérialisme occidental et à sa colonisation. D'une manière dont j'ai quand même, malgré tout, du mal à comprendre exactement pourquoi, mais c'est comme si dans le champ politique, de gauche français en ce moment, soit vous parliez des questions raciales, et dans ce cas-là, apparemment, vous êtes ignorant des questions de classe, ou en tout cas, c'est ce qu'on vous renvoie, apparemment, vous êtes incapable de penser la classe, et puis vous ne parleriez que de l'urbanité, soit vous vous situez du côté Ruffin-PCF et... c'est saucisson barbecue, les pauvres petits blancs, faut leur parler. C'est bizarre, en fait, cette opposition qui a un peu aucun sens. C'est pour ça qu'on raconte cette histoire sur les marxistes qui se sont penchés sur la question raciale. C'est aussi pour mettre les choses à leur bon endroit. Enfin, en l'occurrence, je pense qu'on peut nous faire beaucoup de reproches à Claire et moi, et certainement à un certain nombre des collègues qui travaillent sur les questions de race en ce moment, mais je pense qu'une des choses qu'on ne peut pas nous reprocher, c'est d'être ignorante de la classe. Ça, ce serait vraiment, à mon avis, très malhonnête. C'est dur de savoir si, en fait, les malentendus, ils sont sincères ou pas. Quand Mélenchon, il dit « Ouais, ceux qui parlent de privilèges blancs, ils n'ont jamais vu un blanc pauvre », je sais pas, est-ce que c'est que vraiment il a pas capté? Est-ce qu'il fait semblant de pas avoir capté? Est-ce que c'est qu'il veut parler à un certain électorat? Moi, je peux pas le dire. Je trouve ça bête. J'ai pas d'autres mots que ça et je suis un peu désolée de ça parce que je me dis, mais c'est fou quand même. Ou alors il pense vraiment que nous, on est bêtes et qu'on pense en effet que tous les blancs de ce pays sont des bourgeois. Enfin, ça n'a aucun sens. Enfin, il suffit de réfléchir 2 minutes. Et en même temps, il suffit de réfléchir 2 minutes. C'était un truc, on finissait là-dessus dans Sociologie de la race. On disait quand même, honnêtement, aujourd'hui, en France, prétendre que être noir et être blanc dans cette société, ça a genre pas d'effet. Et que, je sais pas, vous prenez 2 personnes de classe populaire qui ont grandi dans des grands ensembles urbains, un blanc et un noir, et que vraiment, vous vous dites non, mais il n'y a aucune raison qu'ils aient pas les mêmes vies, les mêmes destins sociaux. Soit vous vivez dans une grotte, soit vous êtes malhonnête, mais je vois pas d'autre alternative. On raconte pas des trucs qui sont si contre-intuitifs que ça, en fait. Les destins sociaux sont en partie guidés par les assignations raciales et... En fait, la classe ne vient pas annuler ça. Même parmi les blancs pauvres, en fait, ben, si on est pauvre, il vaut toujours mieux être blanc que pas blanc. je pense que le malentendu vient de ce réflexe de dénégation qui vient en fait exactement de la position blanche, qui est une position de domination et qui en fait, pour pouvoir dominer, a besoin de faire croire non seulement que sa position est juste, c'est-à-dire que les avantages sont pas indus, et dans ce cas-là, qu'il n'y a pas de domination qui permet les avantages, et aussi de faire passer sa position pour une position de neutralité, quoi. Le fait de nommer la blanchité, ça annule la neutralité. Donc. La blanchité se formalise beaucoup, notamment aux Antilles, en fait. Du coup, on raconte cette histoire-là aussi, comment, pour le coup, les Français ont commencé à se dire blancs, en fait, aux Antilles, en fait. Et c'est dans des textes d'administrateurs coloniaux, etc., qu'on voit les premiers usages de blanc comme substantif, c'est-à-dire de dire les blancs, et plus les Européens ou les Français, par exemple, mais de vraiment désigner les blancs, évidemment, bien avant de désigner les Noirs, mais de désigner les Blancs, ça intervient à cet endroit. C'est évident que l'ensemble des colonies, qu'on appelle les anciennes colonies, sont en fait essentielles dans l'invention de la race et dans la manière dont elles se formalisent, et avec des effets de retour évidemment sur la métropole, mais que c'est évidemment à cet endroit-là, avec cette particularité qui crée des très fortes différences aussi dans la manière, je pense, dont même on parle de la race aux États-Unis et en France, c'est qu'en France, pendant très longtemps, on a pu, disons, reléguer cette question aux portes de l'Hexagone. Puisque les États-Unis sont une colonie de peuplement, donc il y avait une unité de territoire, et donc c'était sur un seul territoire que se posaient les choses. Et donc, avec des histoires de cohabitation sur une même unité géographique, ça a produit tout un tas de choses. En France, et c'est sûrement aussi ça qui fait que les choses se tendent et que on a l'impression qu'on est hyper en retard, c'est qu'en fait, la présence sur une unité géographique de l'Hexagone de population blanche et non blanche, dans des proportions qu'on connaît aujourd'hui, je veux dire, c'est en fait assez récent dans l'histoire, puisque jusqu'à présent, c'était relégué au territoire colonisé, donc à un ailleurs. Avec du coup aussi des lois d'exception, mais dont en fait on pouvait se préoccuper très peu parce que en fait finalement elle considérait voilà ces autres espaces et pas l'espace hexagonal. En fait, il y a cette anecdote qu'on met dans le livre. De formateurs sur les questions de race qui font en gros des ateliers. Ils séparent un moment les blancs des non-blancs pour faire des ateliers un peu et puis pour avancer. Ils séparent et puis en fait après ils font un tour de parole et puis alors là tout à coup dans le groupe des personnes qu'ils ont identifiées comme blanches, il n'y a plus personne qui est blanc. Donc moi je suis italien, je suis pas blanc, moi donc voilà. Donc ça prend beaucoup de temps et puis du coup ils font un peu des blagues là-dessus parce qu'ils sont bah, c'est marrant. Tout à l'heure il y avait des blancs dans la salle, là il n'y en a plus mais voilà. Aux États-Unis, ils disent les white ethnics, comme ils utilisent ce terme aux États-Unis comme un synonyme de nationalité, mais en gros, des nationalités un peu non anglo-saxonnes seraient un moyen de se distancier de la blanchité. Parce que bon, il y a aussi ça, c'est que être dominant, c'est inconfortable. Et alors ça, c'est le cas pour tous les rapports de domination, je veux dire, sur la classe, c'est très évident aussi. Mais du coup, on a toujours des bonnes raisons de ne pas être tout à fait dominant. Donc voilà, un peu de la même manière que beaucoup de gens ont des grands-pères ouvriers et que sont très ravis de le dire, et ben beaucoup de gens ont des grands-pères italiens et sont ravis de rappeler que quand même, voilà. Malgré tout, par exemple, si on regarde d'un point de vue statistique aujourd'hui, pour le coup, on sait que... En gros, la situation en termes d'accès à l'emploi, au logement, d'insertion, de niveau de revenu, etc., des descendants d'immigrés européens se confond complètement avec la situation des Français nés en France de parents français sans ascendance migratoire. Mais que, en gros, il y a un petit décrochage pour les Portugais sur certains éléments, notamment l'insertion sur le marché de l'emploi, et que, en gros, ils sont un peu en dessous. Alors, ils sont loin au-dessus, par exemple. Le but n'est pas de dire ils sont pas blancs, parce que, ils le sont. Socialement, surtout que bon, en plus, on passe aussi beaucoup de temps à raconter à quel point la blanchité est liée à la question coloniale. Et bon, extraire le Portugal des empires coloniaux paraît un peu. Il faudrait quand même réécrire beaucoup d'histoires. Mais par contre, de dire, il y a peut-être des formes de blanchité qui sont un peu moins centrales. Mais c'est le cas aussi, à mon avis, si vous prenez certains pays de l'Est. Je sais pas, la Roumanie, est-ce que c'est une forme de blanchité hégémonique, quoi? Enfin, du coup, ça permet de réfléchir à ça et d'être aussi de sortir d'une opposition, justement, blanc-non-blanc, qui est, à notre avis, à certains moments, en tout cas, permet pas de penser les choses de manière si fine que ça, et donc de penser que, en effet, il y a des formes hégémoniques de blanchité, notamment en termes de nationalité et d'origine nationale, sur qui est pensé comme étant le cœur de la blanchité, et d'autres qui demeurent blanches, mais qui, du coup, incarnent des formes plus subalternes de la blanchité. Donc ça, c'est un exemple. En vrai, il y a beaucoup d'études, et on en parle un peu aux États-Unis, qui se sont intéressés justement au white trash, donc les blancs très pauvres, en fait. Et comment, en fait, aussi, ces blancs très pauvres, à plein d'égards, ils sont un peu aux marges aussi de cette blanchité hégémonique. Et c'est d'ailleurs ce qui peut expliquer certains comportements politiques, avec toujours ce truc de, pour gagner son ticket d'entrée au cœur, on sait ce qu'il faut faire. Il faut se distinguer des autres, en l'occurrence en France, des Noirs et des Musulmans. Ça permet, à notre avis, de penser aussi d'espèces de mécanismes, soit de distinction d'autres groupes qu'on peut voir à l'œuvre, soit aussi des mécanismes de domination à l'intérieur même du groupe blanc, c'est-à-dire de penser qu'il y a aussi potentiellement des hiérarchies à l'intérieur de ce groupe. Puis on s'appuie notamment sur un certain nombre de chercheurs et militants qui ont bien avant nous critiqué cette posture un peu militante qu'on a vue émerger dans la dernière décennie, de faire la liste de ses privilèges et après de passer à autre chose qui a quand même très peu d'intérêt à part juste se présenter aux gens. Par exemple, Fanny Anoël qui dit cette obsession à faire des listes, elle dit toujours plus longue que les mentions légales d'Apple, donc on va faire ah oui, donc moi aussi j'ai mais ça n'a pas d'effet, il n'y a pas d'effectivité sur ce truc-là, mais c'est quelque chose que voilà, Kaoutar Archi, elle dit aussi, Joao Gabriel le dit aussi, et on reprend en fait ces différentes critiques. Joao, il a cette formule où il dit ça aboutit à une sorte de militantisme performance et déclaratif. Il suffit de déclarer ses privilèges et puis du coup, on en est absous et on peut passer à la question suivante, ce qui est quand même pas très matérialiste, disons, sur le fait de qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on fait de ça, qu'est-ce que ça dit, comment ça influence les positions de chacun et de chacune. Et que du coup, aussi, penser en termes de domination, c'est sortir Kaoutar Archi aussi, elle dit, ça va avec l'obsession un peu néolibérale pour le soi, et puis qui on est, et puis nanana, et puis elle dit, pensons aussi les structures plutôt que les individus. C'est vrai que là-dessus, on est assez d'accord, je pense, Claire et moi, sur le peu d'intérêt de faire des espèces de déclarations de performance, surtout qui sont plus ou moins honnêtes d'ailleurs, donc ça a d'autant moins d'intérêt sur qui on est, combien de privilèges on détiendrait, alors que peut-être que du coup on pourrait plutôt discuter de sa place dans les rapports sociaux, de qu'est-ce qu'on fait au quotidien, etc. Mais justement sur qu'est-ce qu'on fait au quotidien, après il y a tout un débat, donc, notamment aux États-Unis, mais sur est-ce que c'est possible d'être un blanc non raciste? Quelle est la place des blancs dans le milieu antiraciste? Qui en fait rejoue évidemment des questions que le mouvement féministe s'est beaucoup posé. Pas du tout l'extrême gauche, qui est évidemment pleine de profs et l'a toujours été. Donc c'est pas trop posé la question de savoir si c'était possible de pas être ouvrier et de défendre la classe ouvrière. Mais le mouvement féministe s'est beaucoup posé la question de la place des hommes en son sein. Mais donc voilà, et donc du coup ça revient un peu à rejouer aussi cette question de est-ce que c'est possible individuellement de renoncer entièrement à ses privilèges? Pour quand même fournir des éléments de réponse, en tout cas clairement, on est assez convaincus que non, puisque c'est pas une question individuelle, on peut pas résoudre la question individuellement. Enfin, donc, puisqu'on participe au système, forcément, si on est dominant dans un rapport de domination, on bénéficie de cette situation, en fait, qu'on le veuille ou non, on en bénéficie. La question ensuite, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Et aussi, c'est pas soit l'un soit l'autre, en fait, c'est pas soit je pense les choses de manière structurelle. Donc, finalement, j'ai été socialisée comme blanc, donc je serai raciste et puis je peux n'en avoir rien à faire, que je sais pas, mes proches soient racistes, qu'il y ait du racisme au taf, et tant pis, c'est structurel, et donc ciao. Versus ne penser que les choses au niveau individuel. En fait, peut-être que c'est possible, et c'est un peu ce qu'on dit à un moment, on dit peut-être que tout ça ne relève pas non plus d'équation du cinquième degré, et qu'en fait, c'est possible de, se dire que ça va pas changer la face du monde, de reprendre Gérard à la machine à café, mais en même temps, ça va rendre la vie plus facile et plus respirable pour ses collègues non-blancs, donc franchement, autant reprendre Gérard, et c'est pas grave si ça change pas le monde, ça change quand même quelque chose pour quelqu'un, on n'est pas obligé de se dire, ça va pas changer le monde, donc je le fais pas, Et là-dessus, on le dit un peu ironiquement, parce qu'on pense que parfois, on en fait des caisses et des caisses et des caisses sur qu'est-ce qu'on peut bien faire quand on est dominant. Bon, ben, on peut être peut-être juste des humains décents et reprendre Gérard, enfin essayer de faire le moindre mal, enfin faire les choses bien. Si on a de l'argent, donner de l'argent, faire ce, enfin voilà, et surtout se taire beaucoup, se taire puisque c'est un peu le voilà sur d'autres rapports sociaux aussi, on aimerait bien que les dominants se taisent, donc parfois peut-être que juste se taire c'est bien, parce que du coup il y a aussi une espèce de multiplication d'écrits un peu voilà très introspectif, très auto-flagellateur sur voilà c'est quand même terrible d'être un dominant et qu'est-ce que je pourrais bien faire. Bon, enfin, voilà, on dit aussi, peut-être, c'est là où je disais tout à l'heure, peut-être on peut souffler un coup, peut-être qu'il n'y a pas non plus besoin d'en faire des caisses sur à quel point c'est compliqué. Enfin, peut-être qu'en fait, on peut aussi essayer de faire les choses bien et juste, en effet, par contre, arrêter de penser qu'on peut changer les choses au niveau individuel, ce qui n'empêche pas de faire du mieux qu'on peut au niveau individuel dans sa vie, quoi. Bah ouais, je pense qu'on a toutes les deux beaucoup à cœur, justement, de s'intéresser plutôt à ce que font les gens et à quel point, mais c'est du coup quelque chose que je racontais déjà dans derrière le mythmétisme, mais de justement que la race c'est une affaire aussi de pratique, quoi, de pratique, de rapport au monde, de mode de pensée, de mode d'être, etc. Et que c'est aussi beaucoup ça en fait, et que c'est ça qu'on trouve intéressant à déplier, quoi. Et donc d'essayer de se demander qu'est-ce que c'est se comporter comme un blanc, qu'est-ce que c'est, voilà, qu'est-ce que c'est faire son blanc. Qu'est-ce qu'il y a en jeu là-dedans? Qu'est-ce que ça signale? Ben, merci pour l'invitation.
Vous venez d'écouter Solène Brun, l'enregistrement de sa présentation à Transit, samedi 21 septembre, de son livre « La domination blanche », coécrit avec Claire Kosker. Alors, si vous voulez avoir le programme des présentations de livres qu'il va y avoir pendant le mois d'octobre à Transit, ben, je vous conseille d'aller regarder directement sur leur site, parce que il y en a pas mal, il y en a pas moins d'une dizaine ce mois-ci, avec des sujets aussi variés que la Palestine, la Kanaky, la Big Tech, la France-Afrique, la lutte contre l'extrême droite, mais aussi avec de la poésie et de la littérature. Donc voilà, nous on se retrouvera pour écouter un enregistrement d'une présentation de livre à Transit d'octobre, et ça sera le 5 novembre dans Libre Débat. Je ne sais pas encore quelle présentation, ça dépendra aussi un petit peu de qui y a de disponible pour aller enregistrer, et puis aussi aussi si c'est compréhensible, parce que des fois c'est quand même pas pareil à la radio, et puis qu'on est en direct et qu'on peut poser des questions. Donc voilà, on verra. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, toujours pour Libre Débat. Restez à l'écoute de Radio Galère aujourd'hui, puisque ça va bientôt être l'heure de 1h en Palestine. Pour finir en musique, on va écouter le morceau Flow de Jourdain, dont on avait pris des petits bouts pour faire des respirations dans la présentation du livre de Solène Brun, La domination blanche. Voilà le morceau en entier.
Bother, no, I get hot and bother when compared to these frauders. I'm a midnight marauder. The people's instinctive author was never no sacrificial lamb, but somehow always slaughter. Rhythm is easy for me. I dibble and dabble in words like a scrabble that pull up in battle. A man or a woman who didn't think I handle the wizardry that take place in this hickory dickory. Alakazam turn up to a centipede. Will turn you to a but you're already been that to me. Already been that to me. So catching up like rocking 10 seasons ago and thinking that you dressing up. Y'all got some catching up, cause a lot of lies been told. I'm living in the days of futures past, so time's been old. Sometimes I think about giving up, but remember I'm too cold. Then wipe my nose, wipe the coal out my eyes, then proceed to take over. I feel like rap's Jehovah. Lord, I'm a witness to the devastation on your planet. Lord, be on fitness. I exercise my faith in hopes that I could be enlisted into the Jawarriors, the glorious to be seen.
You got the flow, we got you got the flow.
could just up it and end the discussion about who really does it and who really don't. On the top of the top when it come to a list, when it come to a, when it come to a gold on the island remote. You could call me the king, you could call me the queen, you could call me the reason that rappers is jokes. I be pulling these calls on my and be eating it up like a jellyfish toast. Don't tell me I'm gross, just look at the gross, the numbers disgusting. You wish I was bluffing, I'm stunting. Pull up a pic of me if you wanna look up to something.
You got it flowing.